Le 12 janvier 1962.
Mais dis-moi ce que tu voulais dire.
En somme, dans ces derniers aphorismes, il essaie bien de nous montrer qu'il faut aller au-delà du sens du péché et de la vertu, évidemment. Qu'il faut dépasser ce sens du péché et de la vertu. Et ça m'a rappelé un passage, une de tes expériences qui m'avait beaucoup frappé à l'époque. Cette expérience où tu as fait, tu es allé dans le monde supramental, tu as vu ce bateau qui débarquait au rivage du monde supramental, des gens à qui on faisait passer des épreuves, et des gens qui étaient rejetés et d'autres qui étaient gardés. Alors tu as raconté cette expérience, et il y a un passage de cette expérience qui m'a frappé et qui a un rapport avec ça, si on veut. Est-ce que je peux te lire ce passage?
Oui, je ne me souviens plus.
Alors, après avoir décrit ce bateau et le débarquement, tu dis, le point de vue, le jugement, pour passer les épreuves, n'est-ce pas, était basé exclusivement d'après la substance qui constituait les gens. C'est-à-dire, s'ils appartenaient complètement au monde supramental, s'ils étaient faits de cette substance si particulière, le point de vue adopté n'est ni moral ni psychologique. Il est probable que la substance dont leur corps était fait était le résultat d'une loi intérieure ou d'un mouvement intérieur qui, à ce moment-là, n'était pas en question. Du moins, il est tout à fait clair que les valeurs sont différentes. Tu ajoutes encore, j'avais alors l'impression, une impression qui est restée pendant assez longtemps, d'une extrême relativité, pas exactement, l'impression que la relation entre ce monde-ci et l'autre changeait complètement le point de vue d'après lequel les choses doivent être évaluées ou appréciées. Ce point de vue n'avait rien de mental et il donnait un sentiment intérieur étrange que quantité de choses que nous considérons comme bonnes ou mauvaises ne le sont pas réellement. Il était clair que tout dépendait de la capacité des choses, de leur aptitude à traduire le monde supramental ou à être en relation avec lui. C'était si complètement différent, parfois même si contraire à notre appréciation ordinaire. Alors tu continues encore. Chez les gens aussi, j'ai vu que ce qui les aide à devenir supramental ou les en empêche est très différent de ce qu'imaginent nos notions morales habituelles. Alors j'avais envie de te demander, n'est-ce pas, si ce ne sont pas des notions morales, quelle est la capacité ou la qualité qui nous aide à marcher vers le supramental ou quel est ce point de vue, tout c'est un peu long peut-être. Quel est ce point de vue tout différent?
Justement, toutes les choses que j'ai regardées et étudiées ces jours-ci. Il y a une chose où j'ai parlé un peu de ça. Tu te souviens, ce monsieur de Madras qui avait demandé. Là, il y a une indication. Parce que j'ai suivi le fil. Je me suis remis en contact avec l'expérience du bateau supramental. Et je me suis aperçu que ça avait eu une action décisive dans la position, cette expérience. Ça a établi d'une façon absolument claire, précise, définitive, les conditions requises. De ce point de vue-là, c'était intéressant. une fois pour toutes, ça a balayé toutes les choses, non pas seulement de la moralité ordinaire, mais de tout ce que l'on considère ici, dans l'Inde, comme nécessaire pour la vie spirituelle. À ce point de vue-là, c'était très intéressant. Cette espèce de soi-disant pureté ascétique, n'est-ce pas? Cette absence, la pureté ascétique, c'est tout simplement le rejet de tous les mouvements du vital. Au lieu de prendre ces mouvements et de les tourner vers le divin, c'est-à-dire de voir en elle la présence suprême et justement de laisser le suprême y agir librement, on lui dit non, ça ne te regarde pas. Il n'a pas le droit d'entrer là-dedans. Le physique, ça, c'est une vieille affaire, on le sait. Mais on y a ajouté le vital. Et tous ici sont comme ça, même maintenant, peut-être, il change un peu, mais au début, il était comme ça aussi. Il n'y avait que les choses qui étaient classiquement reconnues comme ou sacrées ou admises par la tradition religieuse, comme par exemple la sainteté du mariage et n'est-ce pas, les choses comme ça. Mais la vie libre, oula, c'était incompatible avec toute vie religieuse. Alors tout ça, ça a été complètement balayé, une fois pour toutes. C'est pas pour dire que ce qui est demandé est plus facile. C'est probablement beaucoup plus difficile. Au point de vue psychologique, ça c'est ce dont j'ai parlé dans cette réponse à cet homme, c'est l'égalité parfaite. Ça c'est une condition absolue. J'ai observé depuis ce moment-là, pendant des années, qu'aucune vibration supramental ne se transmet excepté dans cette égalité parfaite. S'il y a la moindre contradiction de ça, en fait, le moindre mouvement d'ego, de la préférence de l'ego, ça passe pas. Ça ne se transmet pas. Ce qui fait déjà un assez gros, une assez grosse difficulté. Et en plus de ça, il y a deux choses qui, pour que la réalisation puisse être totale, ne sont pas faciles. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas très difficiles. Je ne parle pas de n'importe qui, je parle de ceux qui ont fait un yoga et qui ont eu une discipline. Au point de vue intellectuel, c'est relativement facile. Au point de vue psychologique, c'est... Et alors, si on associe ça avec cette égalité, ce n'est pas très difficile. Mais dès qu'on arrive au point de vue matériel, c'est-à-dire physique et puis corporel, n'est-ce pas? Les deux conditions sont comme ça. Un pouvoir d'expansion, d'élargissement, pour ainsi dire indéfini, de sorte qu'on puisse s'élargir à la dimension de la conscience supramentale qui est totale. La conscience supramentale, c'est celle du suprême dans sa totalité. Et en plus de ça, elle doit, je veux dire, sa totalité en ce qui concerne la manifestation, le côté de la manifestation. Naturellement, au point de vue supérieur de l'essence. L'essence de ce qui devient supramental dans la manifestation, ça doit être une capacité d'identification totale avec le suprême, non seulement dans son aspect de manifestation, mais dans son aspect de statique. N'est-ce pas, nirvanique au point de vue manifestation. Le non-être. Mais en plus de ça, il faut être capable de s'identifier au suprême dans le devenir. Et ça implique ces deux choses, un élargissement, au moins un défi, parce que c'est un élargissement qui doit être en même temps une plasticité totale afin de pouvoir suivre le suprême dans son devenir. Ce n'est pas à un moment donné qu'il faut être aussi vaste que l'univers, c'est indéfiniment dans le devenir qu'il faut. Ça, ce sont les deux conditions. Il faut que ce soit potentiel. Jusqu'au vital, dans le domaine des choses, je veux dire plus que faisable, fait. Au point de vue matériel, ça conduit à mes mésaventures de l'autre jour. Et, n'est-ce pas, même en acceptant a priori toutes ces mésaventures, c'est difficile parce que il y a le double mouvement d'une transformation cellulaire et en même temps d'une capacité de quelque chose qui pourrait remplacer l'accroissement par un déplacement et une réorganisation intercellulaire constante. Naturellement, nos corps tels qu'ils sont, ça, c'est quelque chose de fixe, d'idiot, enfin, c'est innommable, tel que c'est. Autrement, on ne vieillirait pas. N'est-ce pas? l'être intérieur, mon être vital, est plus plein d'énergie et par conséquent de jeunesse, de pouvoir, de croissance, que quand j'avais 20 ans. Il n'y a pas de comparaison. Le pouvoir est infiniment supérieur. Et le corps s'en va en morceaux. Du corps, c'est une espèce de chose innommable. Par conséquent, ça, c'est cet ajustement entre l'être vital et l'être matériel qui est à trouver. Ce n'est pas un problème qui n'a pas été partiellement résolu, parce que les Hatha Yogis l'ont résolu partiellement, à condition de ne s'occuper que de ça. Oui. C'est ça la difficulté. Mais enfin, il faudrait avoir le pouvoir, ayant la connaissance, de faire le nécessaire sans que ce soit une occupation exclusive. Mais il est évident que ce n'est pas un domaine tout à fait inconnu. Parce que quand je me suis retirée, pendant les premiers mois que j'avais tous ces rapports avec l'extérieur, ça marchait très bien. Oh, extraordinairement. J'avais des quantités de troubles dans mon corps qui ont été surmontés. Et il y avait beaucoup d'indications assez précises que si je continuais assez longtemps, eh bien, je rattraperais tout ce qui avait été perdu avec amélioration d'équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre des fonctionnements était très supérieur. Ça n'a arrêté, ça ne s'est détérioré que de la minute où je suis rentré en contact avec le monde. D'autant plus que c'était aggravé par le fait de cette discipline d'élargissement qui fait que constamment, n'est-ce pas, j'absorbe des montagnes de difficultés à résoudre. Alors, au point de vue mental, c'est assez, en 5 minutes, on peut remettre les choses en ordre, ce n'est pas difficile. Au point de vue vital, c'est déjà un peu plus ennuyeux, ça prend un peu plus de temps. Et puis alors, au point de vue matériel. Cette contagion du mauvais fonctionnement cellulaire et de cette sorte de désorganisation intérieure des choses qui ne restent pas à la place qu'il faut. Absorption du dehors crée instantanément un désordre, déplace tout et fait des rapports faux, disloque l'organisation, et il faut quelquefois des heures pour remettre ça en place. Ce qui fait que si je voulais vraiment utiliser la possibilité du corps sans me trouver en face de la nécessité d'en changer parce qu'il ne peut pas suivre, il faudrait vraiment que matériellement, autant que possible, je cesse ingurgiter toutes sortes de choses qui me tirent de d'années en arrière. C'est difficile. C'est difficile. Tant qu'il n'est pas question de transformation physique, le point de vue psychologique est en grande partie subjectif. Est suffisant. Et alors ça, c'est relativement facile. Mais quand il s'agit d'incorporer dans le travail la matière telle qu'elle est dans ce monde où le point de départ lui-même est faux. Nous partons avec l'inconscience et l'ignorance. C'est très difficile. Et alors, justement, cette matière qui pour le... dans le but de l'individualisation nécessaire, pas pour retrouver la conscience perdue. Elle a été faite avec une certaine fixité indispensable pour garder, pour faire durer la forme et pour garder justement cette possibilité d'individualité. Et c'est ça qui est le principal obstacle pour cet élargissement et cette plasticité, cette souplesse nécessaire pour être capable de recevoir le supplémentaire. Je me trouve constamment devant ce problème-là, qui est un problème tout à fait concret, absolument matériel, quand il faut avoir affaire à ces cellules, n'est-ce pas? Qu'il reste des cellules, ça ne s'évaporise pas dans une réalité qui n'est plus physique. Et en même temps, quelle est cette souplesse et cette ce manque de fixité qui fait qu'elle peut s'élargir indéfiniment. Il m'est arrivé, quand je faisais le travail dans le mental le plus matériel, le mental qui est incorporé dans la substance, d'avoir l'impression d'un cerveau qui gonfle, comme ça, et d'une tête qui va éclater tellement elle gonfle. Il m'est arrivé deux fois d'être obligé d'arrêter parce que c'était est-ce que c'était seulement une impression ou est-ce que c'était un fait, mais ça paraissait dangereux. Comme si la tête allait éclater. Parce que le dedans devenait trop formidable. C'était quand c'était cette ce pouvoir, le pouvoir dans la matière, cette lumière bleue foncée, tellement puissante, il y a des vibrations tellement puissantes, qui est capable de guérir, par exemple, qui est capable de changer le fonctionnement des organes. Je sais pas, c'est vraiment une chose très puissante matériellement. Eh bien, c'était ça qui remplissait ma tête de plus en plus, de plus en plus. Alors, j'avais l'impression que le crâne c'était douloureux, n'est-ce pas? Mais que le crâne était soumis à une tension du dedans au dehors, pousser tout ça comme ça. Demander ce qui pouvait arriver. Et alors, au lieu de suivre le mouvement, de l'aider, de l'accompagner, je devenais immobile, n'est-ce pas, et comme ça, passif, pour voir ce qui arriverait. Et dans les deux cas, ça s'est arrêté. Je ne l'aidais plus, n'est-ce pas, je restais tout simplement passif. Et ça s'est arrêté. Une sorte de stabilisation. Mais M. Urbino a dû en avoir l'expérience parce qu'il a été tout à fait positif. Il a dit que ça pouvait se faire. Ça, naturellement, c'est la supramentalisation de la matière. La conscience, la plupart des gens qui ont eu une expérience de ça, c'était dans le mental. Ça, c'est relativement très facile. Très facile. Suppression des limites de l'ego, l'élargissement indéfini, n'est-ce pas, et le mouvement qui suit dans le rythme du devenir, tout ça, mentalement, c'est très facile. Vitalement, au bout de quelques mois, quand je me suis retiré, j'ai eu la chose au point de vue vital. C'était pas difficile. Et merveilleux. Là, naturellement, pour pouvoir l'avoir, il faut que le mental soit changé, il faut qu'on soit en pleine communion et tout vital, individuel, pas préparé par ce qu'on pourrait appeler une base mentale suffisante, serait pris de panique. Tous ces pauvres gens qui ont peur pour n'importe quelle petite expérience, il faut pas qu'ils y touchent. Ce serait pour eux quelque chose. Mais il se trouve, par la grâce divine, on peut dire, que ce vital actuel de cette présente incarnation est né libre et victorieux. Il n'a jamais eu peur de rien au point de vue vital. Dans le monde vital. Les expériences les plus fantastiques étaient comme presque comme des jeux d'enfants. Mais alors là, c'était vraiment intéressant. Et c'était au point que j'ai eu pendant quelques semaines la tentation de rester là. Je t'avais dit une fois un petit bout d'expérience. J'ai dit il y a longtemps, il y a au moins 2 ans, quand je t'ai dit que même dans la journée, c'était comme si j'étais assise sur le... C'était cette réalisation de la journée. Mais alors ça faisait des nuits, n'est-ce pas? Fantastique. Et je n'ai jamais pu décrire à personne et je n'en ai pas parlé, mais n'est-ce pas, j'attendais la nuit comme on attend une chose merveilleuse. J'y ai renoncé volontairement pour aller plus loin. Et c'est même quand j'ai fait ça que j'ai compris que quand ici on parle, il surrendered his experience. Je n'avais jamais très bien compris en quoi ça consistait. C'est quand je l'ai fait que j'ai compris. N'est-ce pas? J'ai dit non, je ne veux pas m'arrêter là, je te donne tout pour aller jusqu'au bout. J'ai compris ce que ça voulait dire. Ah, si j'avais gardé ça, je serais devenu un de ces phénomènes mondiaux, n'est-ce pas, qui bouleversent l'histoire de la Terre. Pouvoir formidable, n'est-ce pas, formidable, insensé. C'est vrai. Ça s'était arrêté là. Ça a accepté ça comme le point final. C'est pas possible. Les gens qui étaient dans ce bateau, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient, c'était ces deux choses-là. C'était la chose se passait dans le physique subtil. Et les gens qui avaient des tâches, n'est-ce pas, et qu'on était obligé de reprendre, c'était toujours ceux qui manquaient de la plasticité et de nécessaire pour les deux mouvements d'élargissement et de... Et c'était surtout le mouvement d'élargissement, plus que le mouvement de progression, n'est-ce pas, de suite. Ça paraissait être une préoccupation ultérieure. Pour ceux qui étaient débarqués, après être débarqués. Et la préparation sur le bateau, c'était de cette capacité d'élargissement. Et alors, une chose, n'est-ce pas, je t'avais dit, quoique je n'en ai pas parlé quand j'ai raconté. Le bateau n'avait pas de machine. C'était tout était mis en mouvement par la volonté. Les individus et les choses. Et ça donnait à toutes ces choses et aux formes des individus une grande souplesse. Parce que c'était... On était conscient de cette volonté qui n'est pas une volonté mentale, qui est une volonté du soi, n'est-ce pas, une volonté spirituelle, on pourrait appeler, une volonté de l'âme, si on donne au mot d'âme. Ce sens-là. C'est-à-dire, c'est une chose dont j'ai fait l'expérience ici. Quand on agit avec une spontanéité absolue, dans le sens que l'action, comme la parole et le mouvement, l'action n'est pas déterminée par le mental, même pas, je parle pas de la pensée et de l'intellect, mais même pas le mental qui nous fait mouvoir généralement. C'est-à-dire que nous percevons en nous la volonté de faire une chose au moment où nous la faisons. Quand on s'observe, on voit ça. Il y a toujours ça peut être très prompt, mais il y a toujours la volonté de le faire. La conscience, quand on est conscient et qu'on se regarde faire, on voit qu'on a la volonté de le faire. Ça, c'est l'intervention du mental, l'intervention habituelle. L'ordre dans lequel les choses se passent. Tandis que l'action supramentale est décidée, on va dire en sautant par-dessus le mental. C'est-à-dire que son passage, de passer par lui n'est pas nécessaire. Cette directe, quelque chose qui entre en contact direct avec les centres vitaux et les fait agir. Sans passer par la pensée, mais en toute conscience. La conscience ne fonctionne pas dans l'ordre habituel, elle fonctionne directement du centre de volonté spirituel avec la matière. Et tant qu'on peut garder cette immobilité absolue du mental, l'inspiration est absolument pure. Elle vient pure. Quand on peut attraper ça et le garder en parlant, ce qui vient aussi n'est pas mélangé. Ça reste pur. C'est un fonctionnement extrêmement délicat, probablement parce qu'il n'est pas accoutumé. Là, un tout petit mouvement, une toute petite vibration mentale dérange tout. Mais tant que ça dure, c'est parfaitement pur. Et ça doit être l'état constant d'une vie supramentalisée. La volonté mentale, mentalisée, parce que ça peut très bien être la volonté, une volonté spirituelle, n'est-ce pas? On peut vivre constamment exprimant la volonté spirituelle. Ça, c'est une fois. Tous ceux qui sentent qu'ils sont dirigés par le divin en eux, c'est ce qui leur arrive. Mais ça se passe par une transcription mentale. Eh bien, tant que c'est ça, ce n'est pas la vie supramentale. La vie supramentale ne passe plus par le mental. Le mental est comme une zone immobile de transmission. Et il y a un tout petit déclic suffit à déranger. On peut donc dire que l'état constant nécessaire pour que le supramental puisse s'exprimer à travers une conscience terrestre, c'est cette égalité parfaite qui provient de l'identification spirituelle avec le suprême. Tout devient suprême dans une égalité parfaite. Et automatique, pas une égalité qu'on obtient par la volonté consciente, par l'effort intellectuel, par une compréhension qui précède l'état. Ce n'est pas ça. Il faut que ce soit spontané et automatique. Que la façon de répondre à tout ce qui vient du dehors ne soit plus comment on répond à quelque chose qui vient du dehors. Il faut que cette espèce de réception et de réponse soit remplacée par un état de perception constant et je ne peux pas dire identique, parce que chaque chose appelle nécessairement sa réponse spéciale, mais libre de tout. On pourrait presque dire libre de tout rebondissement. C'est la différence entre quelque chose qui vient du dehors et qui vous frappe, et à quoi vous répondez, ou quelque chose qui circule et qui tout naturellement entraîne les vibrations qui sont nécessaires à l'action générale. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. C'est la différence entre un mouvement vibratoire qui circule dans un champ d'action identique et un mouvement qui vient de quelque chose en dehors et qui touche du dehors et qui obtient une réponse. Ça, c'est l'état habituel de la conscience humaine. Tandis que l'autre, quand la conscience est identifiée avec le suprême, les mouvements sont, pour ainsi dire, intérieurs. Dans le sens qu'il n'y a rien qui vienne du dehors, ce sont seulement des choses qui circulent et qui, naturellement, dans leur circulation, entraînent par similitude et par nécessité, changent les vibrations dans le milieu circulatoire. Ça, c'est une chose qui m'est très familière parce que c'est mon état actuel constant. Je n'ai jamais l'impression de quelque chose qui vient du dehors et qui me cogne. Mais j'ai l'impression de mouvements intérieurs multiples, quelquefois contradictoires, et d'une circulation constante entraînant des changements intérieurs nécessaires pour le mouvement. Ça, c'est la base indispensable. Ça, c'est une chose qui a été une expérience qui est là depuis très, très longtemps, qui est maintenant tout à fait établie. Dans le temps, elle était momentanée, maintenant, elle est constante. Ça c'est la base. Une histoire. Et là-dedans, il y a l'élargissement suit presque automatiquement. Avec des nécessité d'ajustement dans le corps lui-même qui sont difficiles à résoudre. Ça, c'est un problème dans lequel je suis encore complètement plongé. Et c'est la même chose, l'élargissement et puis cette espèce de souplesse. La souplesse, c'est cette possibilité de se décristalliser. Toute la période de la vie qui consiste à s'individualiser est une période de cristallisation consciente et volontaire qui après doit être toute défaite. Pour être un être conscient et individuel, c'est une cristallisation constante, et volontaire, de toute chose. Et puis après, il faut faire le mouvement contraire, constamment et aussi encore plus volontairement. Et en même temps, ne pas perdre le bénéfice dans la conscience de ce qui a été acquis par l'individualisation. C'est difficile. Ça, c'est difficile. Au point de vue de la pensée, c'est élémentaire. C'est très facile. Au point de vue de la pensée, au point de vue du sentiment même, ce n'est pas difficile. Au point de vue du sentiment, n'est-ce pas, que le cœur, c'est-à-dire l'être affectif, s'élargisse à la à la dimension du suprême, c'est relativement facile. Mais ce corps, ça, c'est très difficile. Sans qu'il perde son centre de, comment dire, de coagulation, qu'il se dissolve pas dans... Encore si on était dans un lieu de la nature avec des montagnes, des forêts, des rivières, et puis beaucoup d'espace et beaucoup de beauté naturelle, oh, mais ce serait plutôt agréable. Mais on ne peut pas faire un pas matériellement hors de son corps sans rencontrer des choses qui sont pénibles. Il arrive quelquefois, il arrive quand on soit en contact avec une substance qui est plaisante, qui est harmonieuse, qui est chaleureuse, qui vibre de lumière supérieure, mais c'est ah. Oui, les fleurs, quelquefois les fleurs, pas toujours, mais quelquefois. Mais on est cogné partout, griffé, écorché, cogné, à toutes sortes de choses. Qui ne s'épanouissent pas. Oh, comme c'est difficile. Comme la vie humaine n'est pas épanouie. Recroquevillé, durci, sans lumière, sans chaleur. Et je ne parle pas de joie, la joie. Tandis que quelquefois, quand on voit de l'eau qui coule, ou un rayon de soleil dans les arbres, aussi, ça chante. Des cellules qui chantent, qui sont contentes.
Et puis, Mère ajoute ceci qui n'a pas pu être enregistré. Si nous allons sur ce chemin-là, évidemment, on pourra faire des choses qui valent la peine d'être faites, parce que c'est nouveau. Ça, c'est tout à fait nouveau. Je n'ai jamais parlé de ça avec Sri Aurobindo, parce que je n'avais pas ces expériences-là à ce moment-là.
Vous avez toutes les expériences psychologiques, et, n'est-ce pas, à partir du mental, même le plus matériel, du vital ou de la conscience physique. La conscience physique, mais pas ça. Ça, c'est nouveau, c'est depuis 3 ans. 3-4 ans. Tout le reste est facile. Tout le reste, juste là, ce sont et ça rend les
têtes. On s'attendait de penser, si la difficulté de transformation physique est si grande, est-ce qu'il n'y aurait pas avantage à matérialiser quelque chose, à agir occultement? À créer quelque chose.
C'est-à-dire, n'est-ce pas, c'était ça l'idée, qu'il faudrait d'abord que des êtres soient arrivés jusqu'à une certaine réalisation ici, qui leur donnerait le pouvoir de matérialiser un être supramental. Tu sais, je t'ai raconté, n'est-ce pas, que j'avais revêtu d'un corps un être du vital. Mais j'aurais jamais, ça aurait été impossible de rendre ce corps matériel. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Même si on le rendait visible, probablement, on ne pourrait pas le garder permanent. Ça, c'est quoi. Mais à la moindre occasion, c'est permanent. Ça, c'est une chose que nous avons discuté avec Thiom, discuté de façon pâle. Enfin, nous en avons parlé avec Thiom II, mais il était de... Enfin, il voyait la chose comme moi, qu'il y a un pouvoir de... Oui, de fixer la forme que l'on n'a pas. Même ceux qui ont des capacités de matérialiser, comme avait Madame Thiom, par exemple, ça ne reste pas. Ça ne peut pas rester. Ça n'a pas la vertu des choses physiques. Et alors on ne pourrait pas continuer la création, n'est-ce pas, sans quelque chose qui possède ça. Oui, on pourrait dire ça, n'est-ce pas, parce que c'est intéressant. Mais oui. Ça, c'est certainement. Tout le processus du développement de le connaissait en détail, mais j'aurais jamais pu le rendre plus matériel, même si j'avais essayé. C'est-à-dire que visible, oui, mais impermanent. Pas capable d'une progression. Et l'autre, je ne crois pas que j'ai perdu du temps. Parce que, justement, on pourrait dire si ce que je sais, ce que je peux, était arrivé, par exemple, 40 ans avant, je ne sais pas, à 40 ans au lieu de 80, alors on a l'impression qu'on a du temps. Mais je n'ai pas perdu. On n'a pas du tout ce temps pour en arriver. Je ne crois pas que ce soit ailleurs. J'ai eu les conditions les plus merveilleuses de vivre la personne, n'est-ce pas? C'est les plus merveilleuses conditions qu'on pouvait avoir ça. Et je ne crois pas que ça tout le projet qui vous a fait c'est pas un pas. C'est un long travail, une unité qui fallait au moins 300 jours. Alors, il n'y a pas. Il faut déjà donner un corps quelque chose qui lui permette de dire comme ça.